France Info.
On parlera, on attend de nouveau un gros coup de vent, peut-être une tempête pour jeudi soir, demain soir.
On va surveiller ça, merci beaucoup Christine Peña et merci à tous encore d'écouter le 5-6 de France Info, il est 5h. Et à la une de ce premier journal de la journée, le gouvernement qui promet une loi d'urgence pour calmer la colère agricole. Les syndicats, eux, comptent maintenir leur mouvement. À la une également, Marine Le Pen qui reconnaît à demi-mot une faute à son procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires. La Russie alliée de Téhéran bien silencieuse face à la situation en Iran et face aux menaces d'interventions américaines. L'OM qui élimine Bayeux, le dernier club amateur encore en lice en Coupe de France de foot. Et puis il nous a quittés il y a 40 ans jour pour jour, mais la musique de Daniel Balavoine continue de résonner. La politique de l'eau, la question du loup et des moyens de production, voilà, sur tous ces sujets chers aux agriculteurs, le gouvernement propose une loi d'urgence agricole d'ici mars. Tout cela pour apaiser la colère d'une très grande partie de la profession mobilisée depuis des semaines maintenant. Des agriculteurs sont par exemple restés toute la nuit devant l'Assemblée nationale à Paris et ils ne sont pas convaincus par cette annonce de l'exécutif. Luc Smesser est le vice-président de la FNSEA.
Comment on passe des paroles aux actes quand elle dit que les agriculteurs ont une pression morale qui est terrible avec ce carcan administratif, on a administré l'agriculture, avec cette pression sur les prix qui sont liés à tous ces effets européens, accord du Mercosur, taxe Trump. Et finalement, je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'un Tour de France. Il y a surtout besoin, c'est de passer rapidement à des éléments concrets. Et si on n'a pas levé, c'est parce que les agriculteurs, quand ils entendent ça, ils se disent « on nous le refait comme il y a 2 ans, on nous fait des promesses ». Mais derrière, il y a énormément d'attentes pour que demain, on retrouve un peu de sérénité.
Un Tour de France, c'est ce que promet la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui sera sur France Info, que vous pourrez entendre dans une demi-heure. Encore des actions attendues aujourd'hui des agriculteurs. Une quinzaine de tracteurs de la coordination rurale venus du Gers ont d'ailleurs réussi à entrer dans le centre de Toulouse, malgré une interdiction de la préfecture. Autre mobilisation prévue aujourd'hui sur l'A50, autoroute entre Marseille et Toulon, au niveau de l'Acadie. C'est le deuxième jour d'audience aujourd'hui pour Marine Le Pen. Elle est rejugée en appel dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du RN. En première instance, souvenez-vous, la patronne des députés du Rassemblement National avait écopé de 4 ans de prison, dont 2 fermes, et surtout de 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, ce qui la prive pour l'heure d'une présidentielle en 2027. L'enjeu donc pour elle, c'est de retrouver la possibilité de se présenter. Et hier, Pierrick Bonneau, devant les juges, Marine Le Pen a laissé entrevoir un début d'inflexion dans sa ligne de défense.
Quelques phrases prononcées à la barre en toute fin d'audience sous les boiseries de la première chambre du palais de justice de Paris. La présidente demande aux prévenus s'ils souhaitent exprimer les raisons de leur appel. Marine Le Pen, longue veste bleue, s'avance à la barre. « Si un délit a été commis, je veux bien l'entendre. Nous n'avions aucun sentiment de l'avoir commis lorsque nous avons embauché et mutualisé nos assistants parlementaires. » Fini les dénégations de première instance. La patronne des députés du RN reconnaît à demi-mot une faute, mais cible directement le Parlement européen qui n'a, selon elle, pas joué ce rôle d'alerte tel qu'il aurait dû le jouer. Marine Le Pen termine sa déclaration liminaire en promettant de donner les explications sur l'ensemble du dossier. Pas un regard à la presse à la sortie de la salle d'audience. Elle s'était épanchée dès les premières heures devant les journalistes en première instance. Un nouveau procès s'est ouvert, avec visiblement une nouvelle méthode.
Merci Pierrick Bonneau. Un adolescent de 16 ans a gravement été blessé à Villalbe, dans l'Aude, après plusieurs refus d'obtempérer, selon les forces de l'ordre qui ont ouvert le feu et l'ont touché au thorax. Il est en urgence absolue. Lui était le passager. Le conducteur, âgé de 15 ans, lui dirigeait sa voiture vers 3 fonctionnaires de police, selon le parquet. Nous agirons de manière très forte, prévient Donald Trump aux États-Unis en cas d'exécution de manifestants en Iran. Avertissement du président américain au régime des Mollahs qui réprime durement un mouvement de colère depuis plus de 2 semaines maintenant. Plus de 700 personnes sont mortes au total, au moins selon le bilan d'une ONG de référence. Et tous ces événements sont observés de près du côté de Moscou, avec un peu de nervosité sans doute. La Russie est un des alliés du régime des Mollahs. Elle s'en est rapprochée énormément ces 4 dernières années, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Les deux pays sont les plus sanctionnés du monde. Ils ont développé des partenariats. Le Kremlin a évidemment besoin d'alliés, mais il risque d'en perdre un nouveau et il ne semble pas pouvoir vraiment influencer la situation, Sylvain Tronchet.
Signe clair d'un vrai malaise à Moscou, aucun dirigeant russe de premier plan ne s'est exprimé sur la situation en Iran. Seul, l'ancien ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a condamné une tentative d'ingérence dans les affaires intérieures iraniennes, mais pas plus que pour le Venezuela. Le Kremlin ne semble décidé à se mouiller pour venir au secours d'un pays qu'il présentait pourtant il y a peu comme un allié stratégique. L'Iran et la Russie ont développé de nombreuses collaborations, militaires notamment, ces quatre dernières années, mais le fait est que Moscou, englué dans la guerre en Ukraine, n'a ni les moyens, ni vraiment d'intérêt à s'opposer à Washington sur ce dossier. La Maison-Blanche a durci le ton ces derniers jours à l'égard de la Russie, condamnant l'utilisation d'un missile Oreshnik en Ukraine et accentuant la pression sur les exportations de pétrole russe. Après Bachar el-Assad et Nicolas Maduro, c'est comme si Moscou s'était déjà résigné à perdre un allié.
Merci Sylvain Tronchet, correspondant de France Info en Russie. Aux États-Unis, Claudette Colvin est morte à l'âge de 86 ans. Elle était une figure du mouvement des droits civiques en 1955, avant Rosa Parks, alors qu'elle n'avait que 15 ans. Elle avait refusé de céder son siège dans un bus de l'Alabama où la ségrégation raciale était toujours en place. France Info, il est 5h06. C'était le dernier petit club en lice. C'est ce qui fait tout le charme d'ailleurs de la Coupe de France, les petits clubs contre les grands. Mais le FC Bayeux a été hier soir balayé par l'Olympique de Marseille, éliminé à Caen après une lourde défaite 9-0 en 16e de finale. Le rêve est donc passé, Jean-Pierre Blimaud, mais le club normand et ses supporters ont évidemment vécu une soirée inoubliable.
Ils sortent du terrain avec une valise pleine de buts, mais avec le sourire et des remerciements. Les joueurs bayeuxins savaient qu'un exploit était quasiment impossible. À l'image du défenseur Quentin Maillette, ils voulaient surtout profiter de tout, même en cas de lourde défaite.
C'est juste incroyable. Rentrer dans un stade où on a 21 000 personnes qui nous encouragent, c'est juste exceptionnel. C'est des souvenirs qui vont rester gravés à vie, des images qu'on n'oubliera jamais dans nos vies.
Il faut dire que le stade habituel du club de Caen avait été transformé en chaudron aux couleurs du FC Bayeux. Ça aussi, le capitaine Grégoire Delain ne pourra jamais l'oublier.
Ouais, il était bleu et jaune. Ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a mis les frissons tout le match. Même les supporters marseillais, au final, à la fin, on a été les applaudir, ils nous ont applaudi. Donc, grand respect, et c'était top.
Une aide d'honneur a même été mise en place par les joueurs marseillais qui ont ensuite accueilli les Bayeuxins dans leur vestiaire, souligne le gardien du FC Bayeux, Oscar Le Canu.
On en parlait avec les gars, ils ont vraiment pris le temps de rester sur la pelouse, de venir nous checker, nous donner un maillot. Ça va faire plaisir au petit frère qui est fan de Marseille. Franchement, super cool.
Très fier de ses joueurs et de son club, le président du FC Bayeux a également remercié l'OM qui a offert sa part de recette.
Merci Jean-Pierre Blimaud. Et puis il nous quittait il y a 40 ans, jour pour jour. Daniel Balavoine, qui mourait dans un accident d'hélicoptère sur le Paris-Dakar, il continue de vivre au travers de ses chansons, au travers de la passion de ses fans, mais aussi de Morgan Marley. Rencontre avec cet artiste de Saint-Brieuc qui parcourt les scènes de toute la France et réinterprète le répertoire de Balavoine, Loïc Guélec. Le groupe s'appelle L'Essentiel des Baies.
Morgan Marley appréciait déjà l'artiste de son vivant.
Quand j'ai découvert Daniel Balavoine, j'étais gamin, il m'a marqué tout de suite. C'est bien plus tard, quand je suis devenu chanteur, c'est quelqu'un qui a beaucoup influencé ma carrière et puis qui m'a donné envie de l'interpréter rapidement.
J'aimerais mieux être un oiseau, je suis mal dans ma peau.
Morgan Marley se lance très vite dans une carrière de musicien, il initie plusieurs projets, avant de créer en 2018 L'Essentiel des Baies, comme Daniel Balavoine. Le chanteur est entouré de 5 musiciens et se produit depuis plusieurs années dans des salles, des bars ou des festivals.
On reste très fidèle quand même aux originaux, tout en y apportant une petite touche personnelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'imitation. Moi, je ne cherche pas à lui ressembler ni vocalement, ni physiquement.
La voix puissante de Daniel Balavoine, mise au service de textes engagés, impose beaucoup de travail pour tous ceux qui veulent interpréter ses chansons en public. Morgan Marley a relevé le défi.
Ah oui, c'est une voix exceptionnelle. D'ailleurs, moi, je n'ai pas la même tessiture de voix que Daniel Balavoine. Je suis obligé de composer beaucoup pour essayer de garder les intonations, on va dire. J'ai donc dû travailler beaucoup pour essayer d'arriver à un résultat probant, on va dire.
Et partout dans la rue, je veux qu'on parle.
Voilà les deux voix qui se mêlent, celle de Morgan Marley et de Daniel Balavoine, dont vous étiez évidemment une immense fan, chère Christine Peña. Vous êtes de retour
du Sud-Ouest d'ailleurs.
Du Sud-Ouest, évidemment. Ça me rappelle quelqu'un. Vous l'appelez Daniel, oui, vous connaissiez personnellement. Bon, alors Christine Peña, qu'est-ce qui nous attend dans la météo aujourd'hui?
Eh bien, écoutez, nous avons ce flux d'Ouest, toujours des nuages qui défilent. Alors peu de pluie, hein, tout au plus de la bruine, un peu de vent dans le sud d'ailleurs, autour des Cévennes, sur les Pyrénées aussi. On a toujours cette douceur qui reste en place. Pas de changement d'ailleurs par rapport à hier. Hein. Même température à peu près. Hier, on a connu les premiers 20 degrés de l'année. Et où ça? Bah, près des Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques. 22,7 à Oloron-Sainte-Marie. Et localement, vous avez gagné bien 30 degrés par rapport à la semaine dernière.
Quand vous êtes toujours obligé de parler du Sud-Ouest. Ça se voit, bizarre, ça commence à se voir, ça. Christine Peña. Merci beaucoup. On vous retrouve juste avant 5h30.
France Info, deuxième radio de France. Merci pour votre confiance.
Chaque jour, vous êtes 4 800 000 à nous écouter.
Merci à tous.
Merci.
Merci pour votre confiance et votre fidélité.
France Info, deuxième radio de France. Merci pour votre confiance.
Les touristes non européens payent dès maintenant plus cher que nous au Louvre, au château de Chambord, au château de Versailles. Alors comment réagissent-ils à la caisse? Reportage sur France Info dans 5 minutes. Nous serons aussi au Maroc dans la prochaine demi-heure qui se prépare à la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations à domicile contre le Nigeria. Mais attardons-nous d'abord sur la natalité qui continue de plonger en France.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
Avec une conséquence que l'on n'avait pas vue depuis 1944, l'année dernière, il y a eu plus de décès que de naissances en France, selon les données qui ont été publiées par l'INSEE. Les jeunes font de moins en moins d'enfants, une baisse de la fécondité qui semble destinée à se poursuivre. Reportage et témoignage dans le 13e arrondissement de Paris avec vous, Valentin Dunat.
Je croise un couple de passage à Paris.
Jérôme, 28 ans.
Manon, 27 ans.
Ils tiennent une crêperie en Bretagne, sont ensemble depuis 4 ans. Ils sortent à l'instant du Muséum d'Histoire Naturelle et justement...
On en parlait tout à l'heure.
C'est-à-dire ?
On était au musée et on parlait de cette question d'avoir des enfants ou pas. Or, en observant les autres parents qui avaient des enfants.
Et vous vous disiez quoi ? Non, surtout pas d'enfants parce que les enfants criaient quand vous étiez au musée.
C'est ça. Ça, ouais. On s'est dit que les gens... qu'on avait l'air plus heureux que les gens qui avaient des enfants. Ça avait l'air contraignant.
Je pense qu'on se sent pas prêt. Ouais, il y a le travail. Puis on est un peu trop égoïste, je pense, pour avoir des enfants.
Égoïste peut-être, mais surtout très angoissée.
Je suis anxieuse déjà de base, donc la vie tout court m'angoisse. Mais avec un enfant, ouais, je me dis, la vie est dangereuse, les gens sont dangereux, l'école, les enfants sont méchants, la vie est chère, c'est dur de trouver du taf. Est-ce que ça vaut le coup, quoi?
La crainte de l'avenir est l'une des principales raisons qui explique cette baisse de la fécondité. Selon une étude de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, publiée en juillet dernier, près de la moitié des 25-39 ans se disent très inquiets concernant le futur. Et dans cet échantillon, 35% envisagent d'avoir des enfants contre 46% des personnes moins inquiètes.
J'ai pas du tout envie d'avoir des enfants.
Marine, elle, est étudiante à la Sorbonne. Je la rencontre devant la fac.
Pour les raisons climatiques, pour le monde, où est-ce qu'il va, pour les raisons politiques. Et de me dire qu'ils peuvent être tristes ou pas bien, ou qu'ils subissent des choses horribles après, quand ils vont grandir. Et puis après, c'est même des convictions personnelles, du fait de devoir tomber enceinte, de devoir suivre la grossesse d'un enfant pendant 9 mois, de se dire que peut-être que l'homme ne sera pas forcément là pour aider à chaque fois.
Et ça, c'est la nouveauté de cette étude de l'INED par rapport à la dernière, effectuée en 2005. Ceux qui défendent une conception égalitaire des rôles de genre ont une moindre intention de fécondité.
La génération, elle est en train de changer, mais il reste encore beaucoup trop d'inégalités entre hommes et femmes. C'est pour moi encore trop la femme qui prend toutes les responsabilités concernant les enfants.
La baisse de la fécondité semble donc destinée à se poursuivre et cette génération a bien conscience des conséquences. Sacha a 20 ans, elle est également étudiante.
C'est inquiétant d'un point de vue économique si on considère le fait que les gens qui travaillent, ils vont rapporter de l'argent à la France et que les gens qui ne travaillent pas, il faut payer les retraites. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a tout un tas de réformes en France. Mais je pense que le gouvernement va probablement lancer un plan pour relancer la natalité, notamment en finançant des aides, un peu comme au Japon ou en Chine.
À ce sujet, parmi les aides à la natalité, il y a une mesure qui vient d'être votée fin décembre, le congé de naissance.
Ça peut participer après... Ça n'a pas incité des gens à faire des enfants juste pour un congé. Donc je pense que c'est
plus... Il faut plus, en fait.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est plus une bonne chose pour les gens qui voulaient déjà, de base, faire des enfants. Mais c'est juste un point positif pour ces gens-là. Ça ne va pas inciter des gens à faire des enfants juste pour un congé.
Cette question ne touche évidemment pas que la France. Pour l'ensemble de l'Union européenne, le solde naturel est négatif depuis 2012.
France Info, reportage signé Valentin Dunat. On vous demandera peut-être votre pièce d'identité. Désormais, si vous allez visiter le Louvre, les châteaux de Versailles et de Chambord, nous le disions, ces monuments et musées coûtent plus cher à ceux qui viennent de l'extérieur de l'Europe. Alors il faut prouver d'où l'on vient. Tarification différenciée voulue par le ministère de la Culture et qui vient tout juste d'être mise en place. Exemple dans cet autre site concerné, Anne Chépeau, la Sainte-Chapelle à Paris.
Bonjour. Yes, where are you from, please?
Australia.
Depuis lundi, les visiteurs de la Sainte-Chapelle qui achètent leurs billets sur place sont questionnés sur leur nationalité. Car s'ils n'appartiennent pas à un pays de l'espace économique européen, ils doivent payer leur billet d'entrée plus cher, 6 euros de plus. Massy est agent de billetterie et il a dû s'adapter.
Ça nous prend un peu plus de temps, c'est un peu contraignant, mais au-delà de ça, sinon, les gens ne se posent pas de questions. Une fois qu'ils sont venus, c'est souvent des gens qui viennent de loin, ils ont prévu leur visite, donc en fait, ils ne rechignent pas. Ils veulent en profiter au maximum.
Pour ceux qui achètent leurs billets en ligne, la vérification de nationalité se fait au contrôle. S'ils n'ont pas le bon tarif, ils sont invités à régler sur place la différence. En fait, rares sont les visiteurs concernés à savoir qu'ils paient plus cher.
Je n'étais pas au courant, mais c'est normal. En Argentine, c'est pareil. Pour les touristes, c'est plus cher que pour les personnes qui vivent sur place.
Rien d'anormal donc pour Liliana qui habite Buenos Aires, même si elle trouve qu'à Paris, les entrées dans les musées et monuments sont plutôt chères. Sharon est américaine et elle accepte sans problème de payer plus.
D'une certaine façon, ça semble juste parce que nous ne payons pas d'impôts ici pour l'entretien des monuments. Pour nous, le prix des billets est raisonnable par rapport à ce que nous pourrions payer aux États-Unis pour visiter un monument national.
Il y a quand même parmi les visiteurs extra-européens quelques rares critiques. Andrew vient lui aussi des États-Unis, il est avec sa femme et ses deux grands-enfants.
Je pense que c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que nous devrions nous encourager les uns les autres à visiter nos pays respectifs, pas nous décourager. Ce n'est pas un bon message.
Pas un bon message pour Andrew et sans doute pas la solution miracle pour financer l'entretien du patrimoine. Josie Carrel-Torley est directrice du développement économique au Centre des Monuments Nationaux qui gère la Sainte-Chapelle.
Le gain financier, et c'est une estimation, n'est même pas de l'ordre de 1 million d'euros puisqu'on avait une tarification différenciée saisonnière que nous abandonnons à la Sainte-Chapelle puisqu'on ne juxtapose pas à la fois la tarification différenciée saisonnière et la tarification UE hors UE. Donc on perd d'un côté, on va regagner de l'autre.
Un bilan est prévu dans un an.
France Info reportage a signé Anne Chépeau. Le ministre des Finances veut y croire, le budget est à portée de main. Déclaration de Roland Lescure alors que l'Assemblée nationale se penche depuis hier à nouveau sur le projet de loi de finances de l'État qui ne met personne d'accord. Quelle issue est donc possible pour le gouvernement ? Faut-il s'attendre à un nouveau marathon de négociations ou alors l'exécutif va-t-il utiliser la Constitution et ses outils pour faire valider le budget ? Voilà l'analyse de Benjamin Morel, politologue, maître de conférence à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas.
Le marathon, il est possible dès lors qu'on n'utilise ni 49.3 ni ordonnance. On se retrouve avec toujours les mêmes trois alternatives qu'on avait déjà au mois de décembre et au même mois de novembre. Soit on arrive à trouver une majorité parlementaire, actuellement elle est peu probable, les socialistes ne vont probablement jamais voter ce budget, et quand même ils le feraient, il faudrait qu'une partie des écolos à minima s'abstiennent, ce qui aujourd'hui n'est pas vraiment non plus dans leur plan. Donc si on exclut ça, reste un 49.3 qui, s'il est dégainé, devrait l'être relativement rapidement, parce que un budget, c'est un peu technique, mais les Français commencent à être habitués après quelques mois, c'est en plusieurs parties. Il y a en tout cas au moins deux parties. Une première partie, la partie recette, et une deuxième partie, la partie dépense. La partie recette, elle va devoir être adoptée relativement rapidement, et si elle n'est pas adoptée, c'est l'ensemble du budget qui tombe. Donc le gouvernement, à ce moment-là, devra dire s'il utilise le 49.3 ou éventuellement s'il passe par une voie beaucoup plus baroque, qui est celle des ordonnances. Et en attendant, on a encore une forme de suspense, mais qui ne devrait pas trop durer.
Est-ce que pour l'état des finances publiques, pour aussi l'investissement, les différents budgets des ministères, il y a quand même urgence à doter la France d'un budget ?
Plus vous passez du temps avec des lois spéciales, moins c'est bon pour l'économie, tout bêtement, parce que on serre les boulons dans les ministères.
Et donc il y a urgence.
Si ça dure un mois encore, quelques semaines, c'est pas très grave au fond. En tout cas, pas plus grave que si ça passait maintenant. Si en revanche ça passe au mois de juin, Là, c'est beaucoup plus problématique. On aura des marchés publics qui ne seront pas faits. Derrière ces marchés publics, il y a des entreprises qui vivent de la commande publique. Elles ont des sous-traitants. C'est un impact important sur l'économie. Si ça arrive au mois de décembre, on a un vrai, vrai sujet à ce moment-là qui pèse sur l'ensemble de l'économie française. Donc, plus tôt c'est fait, mieux c'est.
Quel est le meilleur calcul politique pour le Premier ministre dans cette affaire ?
En théorie, le 49.3 négocié en utilisant et en incluant des amendements, notamment des socialistes, devrait peut-être lui permettre de faire passer son budget. Mais il y a un risque politique, parce qu'il suffit que 23 socialistes décident de voter la censure pour que le gouvernement tombe. Et ensuite, il y a un risque d'image, étant donné que l'image de Sébastien Lecornu, c'est d'être celui qui a pu gouverner son 49.3, à la différence d'Elisabeth Borne, de Michel Barnier, même de François Bayrou. Et de l'autre côté, celui qui a obtenu la peau du 49.3, c'est rien moins que le chef des socialistes, Olivier Faure, qui donnerait, s'il concédait un 49.3, raison à ses opposants internes, notamment François Hollande et Boris Vallaud.
Le politologue Benjamin Morel avec Julien Langlet sur France Info. Du football vous attend dans un instant avec les demi-finales de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Nous serons au Maroc, le pays hôte qui se prépare à affronter le Nigeria.
France Info. 5h-6h.
Bonjour Laura Dulieu.
Bonjour.
À 5h20, c'est l'heure de l'info en une minute avec vous et à la une, les agriculteurs de la FNSEA qui sont en train de partir de Paris.
Ils ont passé la nuit devant l'Assemblée nationale et ce malgré les annonces du gouvernement hier avec une loi d'urgence agricole promise par Sébastien Lecornu ou encore un tour de France auprès des agriculteurs par Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture. Le tout pour tenter d'apaiser la colère agricole, notamment sur le traité de libre-échange entre l'Europe et les pays du Mercosur. L'Iran accuse les États-Unis de chercher un prétexte pour intervenir militairement dans le pays où la répression des manifestations anti-régime se poursuit. Difficile d'avoir un bilan précis. L'ONG Iran Human Rights avance 734 morts confirmés, mais estime que le nombre réel pourrait s'élever à plusieurs milliers. Marine Le Pen affirme n'avoir aucun sentiment d'avoir commis le moindre délit au premier jour de son procès en appel dans l'affaire des emplois fictifs d'assistants parlementaires européens du Front National. La chef de file du RN est espère l'annulation de sa condamnation à 5 ans d'inéligibilité pour pouvoir se présenter à la présidentielle de 2027. Une affiche de rêve, mais une marche bien trop haute pour Bayeux en 16e de finale de la Coupe de France de foot. Les Normands ont été battus sans pitié par l'Olympique de Marseille, 9-0.
France Info.
Qui ira en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football ? Tout se décide aujourd'hui. Le Sénégal d'abord affronte l'Égypte à 18h, c'est la première demi-finale, et puis le Maroc, pays hôte, lui sera face au Nigeria à partir de 21h, avec un énorme espoir évidemment pour les Marocains qui accueillent Xavier Monferrand et que vous avez rencontré à Rabat.
Devant l'académie Mohamed VI, le Clairefontaine marocain niché dans la banlieue de Rabat, quelques supporters sont venus soutenir les Lions de l'Atlas avant leur demi-finale, comme Bilal et Youssef, persuadés que le trophée ne peut pas échapper au Maroc.
La CAN est à nous normalement.
C'est sûr, ouais.
Ça va le faire. J'ai confiance au Maroc.
Voilà, on espère gagner. Mais moi, je serai dans le terrain même si j'ai payé cher, mais bon, on sera, on va supporter l'équipe.
C'est le match que personne ne veut manquer. Alors Bilal a dépensé 400€, presque 10 fois le prix. Zakaria, lui, tente le tout pour le tout.
Là, on est venu parce qu'on n'a pas les tickets. Donc on espère que quelqu'un, il sort, il nous fournit un ou deux. Les gens, ils sont venus de Lyon, l'Italie, Paris, de partout. Ah, le marché noir, c'est abusé. On va être derrière eux, de toute façon. On va être au stade, on va se donner à fond.
Rabat, la belle endormie, ne vibre pas aussi intensément que Casablanca ou Marrakech. Mais la ferveur autour de l'équipe du Maroc est partout, dans toutes les bouches. C'est le rendez-vous d'une génération pour Firdaous El Arch, journaliste à la télévision marocaine.
C'est le rêve de toute une nation. On veut tous être champions d'Afrique. C'est notre occasion. C'est une sorte de pression, mais surtout un petit rêve qui grandit avec nous. Maintenant, on est le pays hôte. Pour nous, le football, c'est un style de vie. C'est pour ça. On veut être champion ici chez nous. Ça sera le rêve de tout le monde. Moi, je n'ai jamais vécu une demi-finale de la CAN. Donc aujourd'hui, je vis un rêve et j'espère bien que ça continuera.
Et cela fait 50 ans maintenant que le Maroc attend d'être sacré à nouveau champion d'Afrique.
Merci Xavier Monferrand, on suivra ces demi-finales de la CAN avec vous sur France Info. Il est 5h24 et dans le monde d'Élodie ce matin, le fils du chanteur Jean-Louis Murat.
Bonjour Yann Bergeau.
Bonjour Elodie.
Vous êtes le fils de Jean-Louis et Michel Bergeau, devenu donc Murat, né en 71 alors qu'ils étaient encore très jeunes. Votre père n'avait que 19 ans. Vous avez également fondé l'Institut Jean-Louis Murat en hommage à ce père que vous avez toujours accompagné, admiré depuis les coulisses. Vous avez assisté à ses débuts parfois difficiles, puis à ses premiers succès ponctués par des années de galère, ce que vous avez appelé d'ailleurs ses traversées du désert. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, vous n'êtes pas auteur-compositeur-interprète, mais enseignant à l'université Jean Moulin à Lyon. Aujourd'hui, vous avez décidé de rendre hommage à ce pilier, à cet homme qui vous a tant donné, apporté et tant inspiré, à travers un livre qui vient de paraître, intitulé Le roman de Murat, avec la complicité du journaliste et scénariste Marc Bess. En fait, c'est une déclaration d'amour à votre père, ce livre, Yann Bergeau.
En quelque sorte, c'est sûrement des choses qu'on n'a pas pu se dire, parce qu'il est parti très vite. J'ai sûrement pas pu lui dire que j'étais fier de lui, du moins pas assez souvent. Et puis de ce qui m'a amené, malgré tous ses défauts et toutes les galères qu'on a pu traverser.
Ce qu'on comprend d'ailleurs dans ce que ce livre a créé chez vous, c'est surtout ce sentiment qu'aujourd'hui vous êtes à votre place, à votre juste place. Ça vous a servi au moins à ça, déjà d'écrire ?
Ça a permis de remplir assez, un peu relativement, mais le vide qu'il a laissé, parce qu'il prenait beaucoup de place, et j'en étais content, mais c'est vrai qu'il prenait beaucoup de place. C'est pas qu'on se voyait tant que ça, mais on échangeait énormément. Beaucoup de sa musique, beaucoup de son œuvre, de là où il en était, etc. Et donc, effectivement, ça permet de combler un peu ce vide, ou du moins d'apprendre à vivre avec ce vide, parce qu'on ne fait jamais vraiment son deuil, je crois.
Ce qui ressort aussi, c'est l'amour inconditionnel qu'il portait à l'écriture. Et c'est vrai que l'écriture lui a permis, finalement, d'évoquer ses doutes, de les combattre, en quelque sorte. C'était sa plus grande passion ?
Ah, sûrement. Parce qu'il n'a jamais pu faire de roman, donc il avait essayé, mais il n'a pas pu, parce qu'il en... Sûrement, il a trouvé des limites à ce genre d'exercice. Mais l'écriture, c'était tout pour lui. Il écrivait tout le temps. Tout le temps, mais surtout sur la moindre facture d'électricité, il pouvait écrire sur des petits carnets partout. Il y a des notes partout, il y avait des notes partout, tout le temps. Il écrivait.
Il a compris aussi très vite que la connaissance, elle lui permet d'être indépendant et de finalement de s'auto-alimenter. Il a été le premier de la lignée du côté de la famille de votre grand-père, donc de son père, à obtenir le baccalauréat. Le fait d'être un élève toute sa vie, ça a été jusqu'à son dernier souffle quasiment, on a l'impression, le fil d'Ariane.
À toujours, toujours apprendre. Et c'est ce qu'on a retenu, moi je pense, nous, ses enfants, ou du moins moi je peux parler pour moi, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre et c'est quelque chose aussi que j'essaye de transmettre à mes filles. Donc il faut lire, il faut comprendre le monde. Et face à un monde qui devient de plus en plus complexe, on n'a pas d'autre salut à mon avis que le savoir.
Vous gardez cette pudeur, mais vous le racontez tel qu'il était vraiment. C'est assez important, vous dites qu'il a appris à être père, votre mère avait l'instinct, lui non. Et en même temps, vous abordez justement ce côté très suicidaire qu'il a eu. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez réussi à comprendre le mal qui l'envahissait au point par moment de vouloir quitter ce monde ?
C'était en même temps son essence, son carburant, parce que je crois pas qu'on puisse être un grand artiste si on n'a pas une extrême sensibilité, qui explique aussi qu'il était rempli de doutes sur lui-même, sur sa capacité à, sur qui il était, à quoi il servait, etc. Donc oui, il s'était rempli de doutes. Ça faisait partie de son caractère. Alors moi, j'en étais préservé. Il me disait de moi qu'il était assez étonné que je sois quelqu'un d'aussi équilibré. En tout cas, oui, par rapport à lui, oui. Effectivement, il était tout le temps torturé et c'était quand même assez difficile pour lui.
Mais ce qui est fou, c'est que le regard le plus dur qu'il avait, c'était sur lui-même. Hein.
Ça, c'était...
Oui, mais c'est là où on voit à quel point ça a été difficile pour vous, parce que par moments, vous étiez un peu le père de votre père, et ce besoin qu'il avait aussi de votre part de le rassurer.
Tout le temps, il avait besoin d'être rassuré, de s'entendre dire qu'il était dans bon chemin, qu'il ne faisait pas d'écart artistiquement. De la même manière, je ne l'épargnais pas quand il avait par moments des sorties médiatiques où il s'abîmait tout seul dans les médias. Vous parliez de tentatives ou de suicide ou d'attitude suicidaire. C'est ce qu'il traduisait aussi parfois dans les médias. Ça a abîmé son image. Essayer de tester jusqu'au bout ce qui pouvait être accepté venant de lui ou est-ce qu'on pouvait encore l'aimer après qu'il ait dit parfois des erreurs. C'était peut-être ça. Dans ces cas-là, je ne l'épargnais pas. Donc, il n'était pas très fier, mais bon.
Il s'est perdu de vue à 71 ans. Vous terminez là-dessus. Qui était, selon vous, Jean-Louis Murat, alors, en tant que fils ?
C'était un homme d'une générosité assez rare. L'intégrité, être intègre, ça c'était très important. Être loyal, intègre. Alors après, qu'il a fait plein d'erreurs aussi, bien évidemment. C'est ce que j'essaye, et c'est ce qu'on essaye de faire, de faire ressentir aussi, et puis de traduire dans ce livre. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'économie non plus des facettes qui sont peut-être un peu moins positives de sa personnalité, des certaines facettes de sa personnalité. Mais voilà, si j'ai à le définir, par le respect que j'ai pour lui, oui, c'est cette grande générosité que je retiendrai surtout.
Merci beaucoup en tout cas, Yann Bergeau, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Le roman de Murat, sorti aux éditions Le Michel. Merci beaucoup.
Merci à vous. Qu'il est dur de
défaire. Et merci à vous, Élodie Suigo. On retrouve votre monde d'Élodie sur l'application Radio France.
France Info Météo, avec Verisure. En 2026, priorité à votre sécurité. Faites confiance à Verisure, alarme télésurveillée numéro 1 en France. Devis gratuit sur verisure.fr.
Christine Peña, le temps reste assez calme.
Oui, assez calme, avec pas mal de nuages aujourd'hui, de nouveau. Hein, c'était prévu, avec quelques bruines, hein, mais pas partout, c'est très localisé. Et puis surtout, ces températures qui sont au-dessus des valeurs de saison, un peu comme hier, hein, pour les températures. Toujours cette douceur pour la saison, ce qui fait un grand contraste d'ailleurs avec la semaine dernière, je vous le disais, localement, on a gagné quasiment 30 degrés, ce qui explique cet air très doux. C'est le vent, hein, ce vent de sud qui pousse de l'air beaucoup plus doux jusqu'en France, qui contraste avec la semaine dernière où on était dans un flux de nord. C'était un flux polaire, beaucoup plus froid. D'ailleurs, on sent que le vent n'est pas si froid que ça en ce moment. À noter que le vent d'ailleurs devrait souffler aujourd'hui assez fort sur les Cévennes et sur les Pyrénées. Et on attend un gros coup de vent pour demain soir.
Merci beaucoup Christine Peña. Au programme de la demi-heure qui vient sur France Info, la crise agricole avec les syndicats qui maintiennent leur mouvement malgré la promesse du gouvernement d'une loi d'urgence. En quoi consiste-t-elle? Explication de la ministre de l'Agriculture dans 5 minutes sur France Info. Et puis nous serons à Washington où Donald Trump menace d'intervenir en Iran militairement si les manifestants sont exécutés. Rendez-vous pour cela dans un quart d'heure. Merci d'écouter France Info en ce mercredi 14 janvier. Il est 5h30.
France Info. William Guécosta.
Il faut tout faire pour éviter qu'un nouveau drame se reproduise après l'incendie de Cran Montana dans un bar suisse, le Constellation, le soir du réveillon et la mort de 40 personnes. Le ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez, demande au préfet de renforcer les contrôles dans les bars dansants. La plupart des établissements, d'ailleurs, n'ont visiblement pas attendu cette annonce pour vérifier leurs installations de sécurité. L'incendie de Cran Montana, Mathilde Leroy, a provoqué un sursaut.
Depuis le drame, Rodolphe Jiménez, patron de l'entreprise Sécurité Incendie Européenne basée en Seine-et-Marne, ne sait plus où donner de la tête.
On a à peu près 30% d'appels supplémentaires par rapport aux mêmes dates de l'année dernière. Donc on est un peu débordé. On est en train de même recruter parce qu'on n'a que deux bras, deux jambes, mais il faut être un petit peu partout.
Le gérant parle d'une véritable prise de conscience des patrons de bars, restaurants et hôtels qui ne laissent plus traîner les devis.
Le nombre de clients qui nous appellent, vite, vite, il faut mettre mon bâtiment, vous m'aviez fait un devis il y a 8 mois, je le valide. Et c'est incroyable. On les a peut-être lancés plusieurs fois pour mettre les locaux en conformité et là, le choc de ce qui s'est passé à Cran Montana, a développé chez eux une insécurité en se disant s'il m'arrive quelque chose, allez, il faut passer commande, il faut installer.
Beaucoup de sollicitations aussi pour l'entreprise Olivier Protection Incendie qui intervient autour d'Annecy. Tous les jours, Olivier Bourbon visite des établissements qui ne sont pas aux normes.
Il faut souvent qu'il arrive un malheur pour que les gens se réveillent. Dans le monde où on vit, c'est comme ça. Et c'est malheureux, mais là, j'espère que les gens ils vont se réveiller et puis ils vont se dire qu'on a un commerce en feu public. Il faut être aux normes et point.
Même s'il est difficile de répondre à toutes les demandes en si peu de temps, les spécialistes espèrent que cette dynamique perdure, car ils redoutent qu'une fois l'émotion passée, les mauvaises habitudes reprennent le dessus.
Merci Mathilde Leroy. Julio Iglesias, accusé de viol et d'agression sexuelle par deux anciennes employées, elle porte plainte contre le chanteur espagnol de 82 ans qui a vendu des centaines de millions de disques dans le monde pour des faits qui remontent, selon elle, à 2021. Julio Iglesias n'a pour l'instant pas réagi. C'est une preuve supplémentaire de la tendance indéniable vers un climat plus chaud. Voilà l'alerte de l'Institut Copernicus. En clair, notre planète continue de se réchauffer irrémédiablement. Copernicus qui publie ce matin un bilan climatique de l'année 2025 dans le monde, marqué une fois de plus par le réchauffement. Et l'an dernier, Guillaume Fariol, a été exceptionnellement chaud.
2024 reste l'année la plus chaude jamais enregistrée, suivie de 2023 et désormais de 2025 qui prend la troisième place du classement. Température mondiale presque 1,5 degré au-dessus des niveaux de l'ère pré-industrielle. Françoise Vimeux est climatologue à l'Institut de recherche pour le développement.
Ça marque une fois de plus que le réchauffement poursuit sa route. C'est pas surprenant parce qu'on continue d'émettre des gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Sur la dernière décennie, on observe une légère accélération du réchauffement par rapport à la décennie précédente.
Les 11 dernières années sont tout simplement les les 11 plus chaudes jamais mesurées et avec elles des catastrophes naturelles plus violentes. 2025 ne fait pas exception.
Le cyclone Mélissa, particulièrement puissant, ces pluies torrentielles en Asie il y a quelques mois qui ont conduit à des inondations épouvantables. On a vu aussi en début d'année ces feux à Los Angeles. Donc moi, je retiendrai vraiment tous les événements météorologiques encore plus intenses que les années précédentes.
Mais ce n'est pas une fatalité, insiste Françoise Vimeux. La solution est connue, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais l'an dernier, elles ont atteint de nouveau un record.
Guillaume Fariol, la paye de 140 000 cheminots doit augmenter d'ici la fin de l'année de 2,6%. Proposition de la SNCF qui doit être entérinée au moins par deux des quatre syndicats représentatifs. La CGT et Sudrail disent que le compte n'y est pas. Après un mouvement de grève hier qui n'a eu quasiment aucun impact sur le trafic. Et puis c'est un pilote pas comme les autres qui ramènera demain Emmanuel Macron d'Istres à l'aéroport d'Orly. C'est l'astronaute Thomas Pesquet, pilote de profession, qui prendra les commandes de COTAM Unité, le nom que l'on donne aux appareils qui transportent le chef de l'État. Il est 5h35. Merci d'être sur France Info.
France Info. 5h-6h. William Gecosta.
Le gouvernement face à deux motions de censure aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Elles ont été déposées par les Insoumis et le Rassemblement national après la validation par les pays européens du traité de libre-échange avec les pays du Mercosur. Malgré l'opposition de Paris, un texte qui hérisse les agriculteurs qui restent mobilisés ces dernières heures et aujourd'hui. Les tracteurs de la FNSEA, certes, sont en train de quitter la capitale ce matin, mais ceux de la coordination rurale sont entrés dans Toulouse. Malgré des annonces du gouvernement, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, est venue les détailler hier soir sur France Info.
L'annonce la plus spectaculaire, si je puis dire, c'est une loi d'urgence agricole. Pourquoi une loi ? Vous savez, moi, ça fait un an, plus d'un an maintenant que je suis à la tête du ministère. On a légiféré parce que quelquefois, pour certaines dispositions, il faut une loi. C'est l'outil par lequel nous pouvons changer les choses. Ça a été le cas de la loi d'orientation agricole, de la loi visant à lever les entraves, dite loi Duplon-Menonville. Ça a été la loi Drone, la loi Chambre d'agriculture. Là, c'est une loi d'urgence agricole.
Mais qu'est-ce
que le Premier ministre a proposé sur trois sujets. Tout d'abord, l'eau, sur l'eau, parce que l'eau concentre énormément d'attentes de la part des agriculteurs et l'accès à l'eau est problématique dans beaucoup de territoires.
Les agriculteurs veulent davantage de stockage d'eau pour faire face aux sécheresses.
Ils veulent davantage stocker. Nous avons triplé le fonds hydraulique et le Premier ministre a demandé au préfet de faire remonter en urgence tous les projets qui avaient été bloqués. Vous voyez, je prends l'exemple de la directive nitrate, personne n'y comprend rien. Donc, le Premier ministre et moi demandons au préfet d'être souple, de pouvoir accorder des dérogations. Il y a un volet fiscal. Un volet fiscal pour l'épargne de précaution pour des aléas économiques, à la fois pour donc l'épargne de précaution pour les aléas économiques, parce qu'il n'y a pas que les aléas climatiques dans le monde agricole, hélas, et puis également un dispositif favorable à la mécanisation collective. Moi, ce que je vais faire, je vais faire un tour de France, je le commence cette semaine, je vais aller dans toutes les régions françaises et je vais leur dire, voilà, cette loi d'urgence agricole, c'est vous qui allez la nourrir de vos propositions.
Êtes-vous confiante sur une sortie de crise là imminente ?
Moi, j'ai toujours confiance en les agriculteurs parce que je les connais bien, ça fait 30 ans que je travaille à leur côté, je viens d'une région agricole. Il y a un niveau d'urgence, une attente, parce que les difficultés sont là et elles se sont multipliées ces derniers mois. Sur le plan sanitaire, on a trois très graves maladies qui sévissent dans le monde de l'élevage. La dermatose, la tuberculose bovine, l'influenza aviaire hautement pathogène. Nous avons un contexte international épouvantable. On a le Mercosur qui suscite un rejet unanime. Il y a les droits de douane américains, il y a les enquêtes anti-dumping chinoises, il y a la taxe carbone sur les engrais. Bref, il y a des menaces internationales qui pèsent très lourdement sur le moral des exploitants.
Mais alors justement,
là, il y a une concentration d'attente, il y a une colère, il y a une angoisse. Il faut bien prendre la mesure que les agriculteurs, moi j'ai encore dialogué avec eux aujourd'hui, je suis touchée par ce qu'ils me disent. Ce que demandent beaucoup les agriculteurs, dans tous les modes de production, c'est un allègement des normes. La lourdeur des normes, la surtransposition française font beaucoup de mal à l'agriculture française et désespèrent les jeunes. Et le dialogue n'a jamais été rompu avec eux. Pour moi, il est fondamental.
La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, l'évoquait donc hier au micro de Céline Baydarcourt sur France Info. La dermatose nodulaire, cette maladie qui pousse les autorités à abattre des troupeaux entiers et qui a une conséquence donc très concrète, l'absence de bovins au prochain salon de l'agriculture qui ouvrira ses portes à Paris dans un mois. C'est une décision de la filière qui déçoit le patron du salon, Jérôme Despé, mais qui la comprend tout de même.
C'est beaucoup d'émotions parce que ce sont les éleveurs et les races qui ont eu ce choix difficile à faire avec la dermatose nodulaire contagieuse, parce que c'est beaucoup de questionnements qui fait que, par solidarité, même dans les zones indemnes, il a été fait un choix de ne pas vouloir participer au salon de l'agriculture. Et j'avais toujours dit en tant que président du salon que je respecterais le choix des éleveurs et des races.
Par solidarité ou par crainte d'une contamination ?
Non, les deux, parce que vous savez que la dermatose nodulaire contagieuse est une maladie qui est vraiment très impactante. Et je pense d'abord aux éleveurs qui ont été impactés, qui ont été meurtris avec des pertes d'animaux. Vous savez, c'est un drame pour l'éleveur de perdre un troupeau. Et puis, cette crainte de savoir dans les mouvements ce qui pouvait donc se passer et les conséquences, d'ailleurs, pour des zones indemnes. Et donc, même si...
Mais il n'y a plus aucun cas de dermatose nodulaire, c'est ce que nous disait la ministre de l'Agriculture.
Oui, à ce stade-là, et on espère que cette maladie va être éradiquée, mais même si sur un plan sanitaire, il y avait la possibilité d'avoir donc des bovins, ben, il y a eu, de la part donc des races, à la fois des craintes, à la fois de l'émotion et à la fois de la solidarité que je comprends de ne pas participer au Salon international de l'agriculture.
Cette décision est irrévocable, Jérôme Despé ?
Oui, elle est irrévocable parce que d'abord, les animaux se préparent. Vous savez, on travaille depuis plus d'un an à l'accueil des animaux au Salon international donc de l'agriculture. C'est beaucoup donc de travail. Et même si on peut... Moi, ça a été un choc, hein. Même si je peux regretter cette situation-là, il faut respecter les éleveurs. C'est un choix difficile pour mieux rebondir pour la prochaine édition et qu'on soit sorti de cette maladie qui est quand même un élément anxiogène et d'inquiétude pour nos éleveurs. Et il faut pouvoir le comprendre et il y aura d'autres animaux au salon de l'agriculture, bien sûr.
Voilà, c'est les vaches, hein, les bovins qui ne seront pas au salon cette année. Mais vous savez tout de même, Jérôme Despé, que beaucoup de visiteurs viennent pour voir ces vaches. Est-ce que vous craignez quand même une baisse de la fréquentation ?
Eh bien, écoutez, je vais à vos auditeurs lancer un appel. Venir, c'est soutenir l'élevage et l'agriculture française et ces femmes et ces hommes qui font l'agriculture. Le salon d'agriculture, au-delà des vaches, c'est bien sûr les cochons, c'est les ovins, c'est les caprins, c'est les chevaux, c'est les lapins. Il y aura bien sûr d'autres animaux et puis c'est le secteur des grandes cultures. Moi, je suis même viticulteur. Il y a les cultures diversifiées et puis il y a nos halls des régions avec nos produits du terroir. Donc, on a besoin des consommateurs. Mmh. On a besoin de notre grand public et c'est pour moi primordial, c'est-à-dire qu'il faut que nos concitoyens soient en soutien de l'agriculture française.
Et qui sera la mascotte alors de cette édition ? Parce que ça devait être Biguin, qui est une vache qui venait de Martinique. Ce ne sera plus elle, je suppose ?
Ben d'abord, je pense à l'éleveur André Prosper de la Martinique, à la race, parce que c'est beaucoup donc de travail. Et comme il n'y a pas de bovins, ben il n'y a pas d'égérie cette année au salon de l'agriculture.
Personne ne remplace Biguin.
Personne ne remplacera Biguin, si ce n'est que nous allons mettre à l'honneur toutes les vaches bovines françaises sur l'affiche du Salon international de l'agriculture. C'est la solidarité pour tous nos éleveurs qui seront présents physiquement. Ils auront leur stand et c'est tout l'élevage et c'est toute l'agriculture qui sera mis à l'honneur.
Jérôme Despé, le patron du Salon de l'agriculture, qui évoquait à l'instant donc le nom d'André Prosper, l'éleveur de Biguin, qui devait être l'égérie de cette édition 2026 et qui ne sera pas là. Il réagit, André Prosper, à cette décision de ne pas avoir de bovins au Salon de l'agriculture.
Depuis bientôt 2 mois, on savait qu'il y avait un problème avec la DNC et surtout ce problème qui met le feu aux poudres, le Mercosur. Donc, on savait qu'il y aurait eu des problèmes, mais on ne s'attendait pas du tout à l'annulation totalement de la présence de vaches sur le salon, ce qui a provoqué chez nous et chez d'autres éleveurs, bien sûr, une profonde déception. Mais voilà, vous savez, on a pu mettre en avant cette vache Biguin. Beaucoup de nos compatriotes ont pu découvrir cette vache résiliente, cette vache qui s'adapte à tout type de climat, de période sèche, de période humide. Et même en métropole, où je l'ai vue il y a encore 15 jours, elle s'est très bien adaptée et c'est simplement un peu de déception de ne pas la présenter vraiment au grand public.
Alors oui, parce qu'il faut dire qu'elle a traversé l'Atlantique pour rejoindre le Doubs, si je ne me trompe pas, de la Martinique au Doubs, ce n'est pas tout à fait le même climat.
Non, c'est pas le même climat et puis il faut savoir que quand même, 62e édition du Salon international de l'agriculture, c'est la première fois qu'on mettait en avant un élevage d'un dôme. Et nous autres ultramarins, nous étions très fiers de montrer aussi que des hommes et des femmes dans ces contrées lointaines de la métropole font aussi un travail exceptionnel puisqu'on a pu réaliser et maîtriser une race résiliente qui s'adapte un peu partout. Donc, c'était vraiment une manière de montrer, de démontrer le travail de nos hommes et des femmes de Martinique et en gros des ultramarins.
André Prosper, est-ce que vous êtes inquiet pour votre vache Biguin? Est-ce qu'elle a été vaccinée contre la dermatose? Est-ce qu'à un moment, vous avez eu peur qu'elle puisse être contaminée?
Non, mais pas du tout, parce qu'elle est dans une zone non réglementée. La vaccination ne s'impose pas. Et donc, j'y étais il n'y a pas longtemps. Elle est dans un élevage où on a un vrai professionnel qui s'en occupe avec un jeune Martiniquais qui la connaît très bien, Abimaël, qu'on salue au passage. Et donc, elle est très, très, très bien adaptée et ça nous permet de voir qu'aujourd'hui, on peut avoir des échanges entre la Martinique et la métropole.
L'éleveur de Biguin, la vache qui devait être l'égérie du Salon de l'agriculture, André Prosper, qui répondait sur France Info à Julien Langlais. Restez avec nous dans un instant, direction les États-Unis où Donald Trump précise ses menaces contre l'Iran.
France Info, 5h-6h.
6h moins le quart, l'heure de l'info en une minute avec Laura Dulieu et à la une, ces deux motions de censure examinées aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Déposées chacune par la France Insoumise et le Rassemblement National pour dénoncer l'accord de libre-échange entre l'Europe et les pays du Mercosur, le tout en pleine colère agricole. Les 350 tracteurs de la FNSEA qui ont passé la nuit devant l'Assemblée nationale sont en train de quitter Paris. L'évêque d'Ajaccio lance un appel à la paix pour arrêter, dit-il, ce cycle mortifère de violence après l'assassinat lundi d'Alain Orsoni. Cet ancien dirigeant nationaliste corse a été abattu d'une balle lors des obsèques de sa mère dans son village natal de Corse du Sud. La SNCF propose à ses cheminots une augmentation moyenne de leur salaire de plus de 2,5% pour 2026. Augmentation qui s'appliquera uniquement si au moins deux syndicats signent l'accord. Or, à ce stade, le compte n'y est pas pour la CGT et Sudrail qui avaient tous les deux appelé à une journée de grève hier. L'année 2025 se classe au troisième rang des années les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde. Selon l'Observatoire européen Copernicus et un institut américain, pour la première fois, la moyenne des températures à la surface de la Terre sur les trois dernières années a dépassé de plus de 1,5 degré le niveau pré-industriel.
France Info. Donald Trump va-t-il frapper l'Iran? Ses dernières déclarations, en tout cas, laissent planer le doute. Le président américain affirme que de l'aide est en route pour les manifestants qui s'opposent au régime des Mollahs, un mouvement durement réprimé dans le sang. Bonjour Franck Madvon.
Bonjour, bonjour à tous.
En direct de Washington pour France Info. Alors Donald Trump menace clairement d'employer la manière forte.
Oui, chaque jour, Donald Trump apporte un soutien plus explicite aux manifestants en Iran. Hier, d'abord dans un message sur son réseau Truth Social, il a lancé en majuscule « Continuez à manifester, prenez le contrôle de vos institutions ». Il promet que les meurtriers iraniens paieront le prix fort. Puis, lors d'une interview sur CBS News, Donald Trump a répondu à un journaliste lui indiquant que l'Iran se préparait à pendre des contestataires. Écoutez.
S'ils les pendent, on prendra des mesures très fortes. On ne veut pas voir ce qui se produit actuellement en Iran. Les manifestations, c'est une chose, mais s'ils tuent des milliers de personnes et maintenant pendent des manifestants, on verra comment ça va se passer pour eux. Mais à mon avis, ça va mal se passer.
Et Donald Trump précise donc que de l'aide arrive. On ne sait pas quelle forme peut prendre cette aide, mais tout semble possible, y compris bien sûr des frappes militaires.
Et que sait-on, Franck, des différentes options explorées par l'administration Trump ?
Alors, son équipe de sécurité nationale en a discuté hier à la Maison-Blanche, sans Donald Trump. Hein, l'objectif est de lui faire des propositions, pas de communication officielle pour le moment. Mais d'après les médias américains, qui s'appuient sur des sources au sein du gouvernement, Donald Trump serait plutôt favorable à des frappes. Les États-Unis n'ont pas de porte-avions actuellement au Moyen-Orient, mais ils peuvent lancer des attaques depuis leur base. L'armée américaine pourrait, par exemple, viser les services de sécurité iraniens directement impliqués dans la répression. Des cyberattaques sont aussi évoquées, ou de nouvelles sanctions économiques. Le camp Trump est actuellement divisé. Certains responsables, comme le vice-président J.D. Vance, tentent de dissuader le président de se lancer dans une nouvelle intervention à l'étranger. Ils invoquent le risque d'un nouveau bourbier au Moyen-Orient, de pertes américaines, le risque aussi de déplaire à la base MAGA, Make America Great Again, qui aimerait voir Donald Trump s'occuper d'abord des Américains. Son ancien conseiller Steve Bannon, par exemple, dans son émission quotidienne, une voix toujours influente s'oppose à des frappes en Iran.
Merci Franck Madvon en direct de Washington pour France Info. Marine Le Pen pourra-t-elle sauver sa candidature présidentielle en 2027? Elle est jugée depuis hier en appel dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du FN. En première instance, elle avait entre autres été condamnée à 5 ans d'inéligibilité immédiate, ce qui la prive de présidentielle. Hier, elle a assuré à la barre qu'elle n'avait pas le sentiment d'avoir commis le moindre délit, avec un changement de ton par rapport au premier procès où elle niait en bloc et où elle était beaucoup plus offensive face au juge. Alors Marine Le Pen et ce changement de ton peuvent-ils avoir eu une influence sur les magistrats? Evelyne Sirmarin est magistrate honoraire, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme.
Oui, c'est sans doute pour ça que elle dit qu'elle a elle n'avait pas le sentiment que c'était un délit. Je rappelle simplement que ce qui compte, c'est notamment la défense, bien sûr, mais c'est l'application de la loi, hein, par les juges, et que même si elle fait profil bas désormais, semble-t-il, de toute manière, ce qu'il faut savoir pour un juge, c'est si les trois éléments d'une infraction sont constitués. Là, c'est un détournement de fonds publics. Est-ce qu'il y a l'élément dit légal, c'est-à-dire est-ce que c'est interdit d'utiliser les fonds du Parlement européen, donc des contribuables européens, pour faire fonctionner le Rassemblement national? La réponse est oui. C'est 10 ans d'emprisonnement encouru et 10 ans d'inéligibilité. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un élément matériel? La réponse est oui. 4,2 millions d'euros qui ont été utilisés pendant une dizaine d'années à payer le fonctionnement du Rassemblement national et non pas des assistants européens travaillant pour des députés européens. Donc, et le troisième et dernier élément, c'est le fameux élément moral ou intentionnel, c'est-à-dire est-ce qu'on a conscience de commettre un délit? Et là, en fait, elle dit non, j'avais pas conscience. Alors, ils ont plaidé déjà l'erreur administrative, en premier ressort. Le problème, c'est que quand un des députés européens dit par mail à Monsieur Valrand de Saint-Just, trésorier, mais ce que Marine nous demande, ce sont des emplois fictifs. Elle répond, il répond, le trésorier, mais Marine sait tout cela. Donc, on a quand même un peu l'impression que elle avait conscience que c'était des emplois fictifs. J'ajoute qu'elle est avocate et qu'elle a dirigé le service juridique du Rassemblement national pendant des années. Donc, c'est une ligne de défense qui est beaucoup plus agréable et qui a pour but tout simplement certainement de faire en sorte que l'exécution provisoire ne soit pas prononcée. Pourquoi ? Parce que l'exécution provisoire, une des motivations, motivations, c'est ils n'ont jamais reconnu qu'ils avaient commis, qu'il y avait des atteintes à la probité. Ils ont toujours plaidé que c'était normal d'utiliser des assistants parlementaires européens pour le parti.
La vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, Evelyne Sirmarin, qui répondait sur France Info à Victor Maté. Il est 5h53 et c'est l'heure de l'actu économique avec vous, Emmanuel Cuny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Actu en trois titres, on commence avec la France, Emmanuel, qui est dans le top 5 mondial des utilisateurs de l'intelligence artificielle.
Oui, c'est ce qui ressort d'une étude réalisée par Microsoft. 44% des Français âgés de 15 à 64 ans utilisent des outils d'IA. Alors nous sommes au 5e rang, alors que les Américains pointent à la 24e place. Et oui, grand paradoxe, les États-Unis sont à la pointe des infrastructures numériques, mais le recours de la population américaine à l'IA pâtit en réalité du manque de confiance dans les capacités de l'intelligence artificielle en tant que telle. Alors en tête des pays dont la population a recours à l'intelligence artificielle, eh bien on trouve les Émirats Arabes Unis.
Les PME et TPE, les très petites entreprises, sont confiantes, Emmanuel, pour 2026.
Oui, l'année commence plutôt bien pour le moral des chefs d'entreprise. Après 2025 plutôt compliqué, la dernière enquête réalisée par la Banque publique d'investissement, BPI France, constate un regain d'optimisme. Les indicateurs sont au vert, tant du côté des commandes que des investissements et des trésoreries. 25% des patrons interrogés déclarent une hausse de leur chiffre d'affaires et les avis de perspectives négatives sont à leur plus bas historique, en dehors des périodes de crise comme celle liée au Covid, selon BPI France Le Lab.
La Chine enregistre un excédent commercial record.
Oui, chiffre communiqué cette nuit, plus de 1000 milliards de dollars au total l'an dernier, alors que les industriels chinois se préparent à continuer de subir les mesures de l'administration du président Donald Trump destinées à ralentir la deuxième économie mondiale.
Emmanuel, on vous retrouve à 6h23 sur France Info, ce sera le Brief Éco.
Boeing a vendu plus d'avions qu'Airbus l'année dernière. Le constructeur aéronautique américain publie des chiffres qui lui permettent de devancer son grand concurrent européen depuis 2018. Est-ce pour autant tout bénéfice pour Boeing ? Ça reste à voir.
Merci beaucoup Emmanuel. Et à tout à l'heure, il est 5h55 et c'est l'heure de vous retrouver, Laura Dulieu, pour votre playlist ce matin. Quand la musique rend hommage, dénonce et revendique. Il y a pile une semaine, aux États-Unis, un agent de l'ICE, la police fédérale de l'immigration, tué par balle, René Good, une mère de famille de 37 ans à Minneapolis, dans l'état du Minnesota. Et comme souvent, dans la foulée de ce genre de drame, Laura, les musiciens s'en emparent.
À commencer par Jesse Wells, un auteur, compositeur et interprète américain qui s'est fait connaître justement en sortant très rapidement des chansons sur l'actualité. Il n'a donc pas tardé à publier. Good Ved Ass. Good Ved Ice pour Good contre la police de l'immigration. Jesse Wells, qui n'est d'habitude pas le plus revendicatif dans ses morceaux, mais la mort de René Good est un tel choc pour bon nombre d'Américains que le chanteur laisse peu de place au doute. Je vous traduis quelques paroles. Vous n'avez probablement pas besoin de tirer une balle dans le visage de quelqu'un pour faire ce que vous appelez un travail.
Et beaucoup de morceaux ont aussi été publiés, Laura, évidemment, sur les réseaux sociaux.
C'est le cas de celui de Odin Scott Cole, chanteur et joueur californien de banjo. Si bruyants et si fiers sont les petits hommes qui ne montrent pas leur visage, chante-t-il à propos déjà des agents de l'ICE auxquels s'opposent nombre de citoyens américains qui tentent de protéger les immigrés. Citons encore ce TikToker Kata qui nous rappelle She's less than a mile from where George Floyd laid. Que René Good a été abattu à un mile de là où George Floyd a été tué par un policier. On pourrait en citer beaucoup d'autres car tout ça s'inscrit dans la lignée des musiques nées notamment pendant l'ère Black Lives Matter, quoi qu'on pourrait remonter encore facilement 30 ans en arrière. Et nul doute donc que la lutte contre cette police de l'immigration aura elle aussi son hymne, comme l'a déjà Black Lives Matter, ce mouvement né en 2013 contre le racisme systémique et les violences policières envers les Noirs américains porté par plusieurs morceaux dont All Right de Kendrick Lamar.
And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Skimming, now let me tell you about my life. Painkillers only put me in the twilight. Where pretty pussy and Benjamin is the highlight. Now tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows, 20 of them in my Chevy. Tell them all come and get me, reaping everything I sold. So my
girl come and have it. On ira voir ça. Merci beaucoup, Laura Dulieu, pour la playlist France Info. Les prévisions de Christine Peña arrivent dans un instant.
Médias en scène, le Festival international des médias de demain, le 15 janvier. Alexis Lanternier, PDG de Deezer, décrypte les opportunités et les risques de l'intelligence artificielle pour les acteurs des médias et des industries culturelles. Un événement à vivre à la Maison de la Radio et de la Musique et en streaming à partir de 9h. Inscription gratuite sur mediaenscène.com. Médias en scène, le jeudi 15 janvier, un événement Les Échos, Le Parisien et France Info.
Avec AXA, Engie, BNP Paribas, Webedia et Ipsos BVA.
France Info Météo avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur Vérissure.fr.
Christine Peña, oui. Le ciel reste couvert.
Mais oui, nuageux effectivement. Alors, ces nuages donnent très peu de pluie par endroit. On a plutôt de la bruine. D'ailleurs, quelques averses localisées entre la Nouvelle-Aquitaine, le Val-de-Loire, le Nord, le Nord-Est, en passant par Paris, vers les Pyrénées-Atlantiques. Nous avons de la neige sur les hauteurs des Pyrénées avec à partir de 1600 mètres d'altitude de la limite pluie-neige et puis le temps sera plus sec vers la façade atlantique. Les éclaircies arriveront quand même à se développer assez rapidement dès ce matin entre la Vendée, la Charente-Maritime et cet après-midi jusqu'à la côte basque. Sur l'Occitanie, le Massif central, le Lyonnais, les Alpes, la région PACA, vous verrez le soleil. En Corse également et attention autour du Golfe du Lion, les Cévennes, vous avez toujours ces nuages, ces remontées méditerranéennes qui donnent quelques pluies au niveau du relief. Mais alors ces pluies en Méditerranée vont s'accélérer pour la fin de semaine à partir de vendredi, samedi et dimanche compris. Des pluies soutenues en Méditerranée nous attendent. Voilà, les températures, on est exactement dans les mêmes valeurs qu'hier. Ce matin, il fait entre 4 et 8 degrés très souvent.
Merci beaucoup Christine Peña. Il est presque 6 heures et il est là, c'est Jérôme Chapuis. Bonjour mon cher Jérôme.
Bonjour William, bonjour à tous. William, à tout à l'heure pour le journal de 7 heures, bien sûr. Maureen Swinner est à mes côtés pour le journal de 6 heures. Laura Dulieu ce matin pour le rappel des titres. Et Christine Peña à mes côtés également pour cette météo qu'on va retrouver dans une dizaine de minutes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous donne tout de suite un rendez-vous, le scrutin c'est dans deux mois, France Info sur la route des